Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
On va vous parler de streaming qui devient plus important encore que la télé, de Google qui prioritise le vrai contenu pour les vrais gens, de TikTok qui est absolument partout et de tout le reste tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 473, nous sommes encore en août, nous sommes en 2022, vous constaterez peut-être que j'ai un petit peu plus d'énergie que la semaine dernière, vous vous douterez peut-être que c'est parce que les enfants sont à la crèche, j'espère pour plus qu'une semaine cette fois-ci, mais non, pas du tout, c'est parce que je suis comme, allez, c'est le mois d'août, et comme presque tous les mois d'août maintenant, le moment de retrouver Fred, qui nous vient directement de Chromebook Live. Comment ça va, Fred ? Comment vas-tu ?
Hello Patrick, hello tout le monde. Effectivement, ouais, ça fait un an, hein, la dernière fois que j'étais passé sur l'émission. Bah, écoute, tout se passe très bien. Moi, je reviens tout juste de congé, reprise d'activité assez dynamique, parce qu'en plus, je me suis lancé dans la création d'une nouvelle société vraiment spécialisée dans les services autour des Chromebooks pour les entreprises. Donc, dynamique, je me suis reboosté, donc tout se passe très bien. Super. Et merci pour l'invitation.
Mais avec plaisir, c'est vrai que c'était pas calculé comme ça, mais ça doit faire quoi, 2-3 ans que vers la fin août, on se dit bah, c'est le moment de checker du côté des Chromebooks. Et donc, on va inviter Fred. Donc, checker du côté des Chromebooks, je dis ça comme ça en plaisantant, c'est parce que Fred est là. On a quand même un programme bien rempli. Mais je vais peut-être te poser quelques questions sur les Chromebooks également.
N'hésite pas.
Dans un instant, mais avant ça, je vais quand même remercier les nouveaux patriotes. J'ai Daquino, TV Olivier, Médénor, Benjamin Van Innis et Pic alias Picpoc qui a rejoint le Patreon juste à l'instant où on commençait à streamer sur Twitch comme tous les mardis midi. Et du coup, on a eu la notification en direct, on a pu le remercier en direct. C'était un moment émouvant pour moi. Merci à vous tous qui avez rejoint la grande famille des Patriotes depuis la semaine dernière. Je vous aime d'amour comme ça. Voilà, je fais des cœurs. Et j'aime également, comme tous les mois, le producteur SS I78, les producteurs qu'on remercie tous les mois, et SSI78, alors j'ai toujours un doute, est-ce que c'est SSI78 ou SS178, on va dire SSI78 plutôt. Merci beaucoup à toi et à tous les producteurs et à tous ceux qui font partie de la famille des Patriotes qui soutiennent l'émission financièrement et qui lui permettent d'exister. Et du coup, Fred, peut-être, bon, allez, rapidement quand même, hein, une fois par an, c'est pas trop. Les Chromebooks, c'est toujours cool. Tu me disais, ouais, pour se connecter, machin et les trucs, c'est toujours un peu compliqué sur Chromebook avant de lancer l'émission. Alors, tu renies ta plateforme de cœur. Qu'est-ce qui se passe ?
Tu te doutes bien que c'était une belle blague. Non, tout se passe très très bien. Attends, il y a des ports USB type C, des ports USB type A, donc tu as des reconnaissances qui se font plus ou moins automatiquement. Non, j'ai pas eu de soucis particuliers, bien entendu. Que dire sur la partie des Chromebooks ? Écoute, ça avance.
J'ai l'impression que, excuse-moi, je t'interromps pour dire, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus calme. On en a beaucoup entendu parler avec la pandémie et tout ça. Là, ça ronronne, quoi. J'ai l'impression que c'est pas non plus une actualité de folie depuis la dernière fois qu'on t'a eu depuis un an sur les Chromebooks.
Bah, écoute, il y a eu effectivement un peu moins de publicités qui ont été réalisées par les équipes de Google France. Après, encore une fois, t'as plusieurs segments. T'as le segment du consumer dont on parle, je pense, et t'as effectivement celui des entreprises. Et forcément, ça converge en quelque sorte en termes de communication à partir du moment où tu t'équipes d'un Chromebook dans une entreprise. T'auras pris connaissance de l'appareil et potentiellement tu basculera en tant que particulier. Mais effectivement, il y a eu peu de communication sur le sujet. En tout cas, il y a eu du mouvement, notamment suite à Covid, parce que le Chromebook, ça a été une solution idéale, clé en main, pour pouvoir démarrer à distance. Ça a vraiment été clé pour Google, notamment dans le développement du secteur de l'éducation. Et là, alors je peux pas en parler réellement, mais tu as deux grosses boîtes qui font un basculement, une qui fait un basculement complet, drastique, et une autre qui est en train de faire par vague, avec une nécessité de trouver, on va dire, des sponsors. Mais bref, ça fait parler, la machine fait parler d'elle. Non, ça reste une solution intéressante pour l'entreprise. Et ben, pour le particulier, c'est encore une fois, c'est ces histoires de rapidité, de simplicité. À partir du moment où tu es ce qu'on appelle un cloud user, tu utilises principalement le navigateur Chrome et que tu as besoin de te divertir au travers d'applications du Google Play Store, c'est une machine qui est parfaite. Hein. Et moi, ouais. J'utilise le Chromebook depuis plus de 5 ans. Alors, pas en exclusivité, parce que typiquement, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos review de différents produits et j'ai besoin d'ailleurs, par contre d'un PC Windows d'une machine forte.
Du Odyssey G9, le moniteur super ultra-wide là, que tu as...
Ah, tu as regardé la vidéo.
Ah, mais enfin, je le connaissais. Le moniteur, mais bref, c'est un truc monstrueux. Mais oui, du coup, c'est intéressant parce que sur ta chaîne YouTube, quand même, t'es obligé de passer sur une machine traditionnelle. J'ai vu que tu utilisais Premiere. Ça, on peut pas faire sur Chromebook, quoi.
Non, tu peux pas. Tu vas avoir des... Alors, t'auras toujours des applications cloud, mais ça nécessite effectivement, tu vois, que t'uploades tes rushs directement via le net, donc contrainte d'avoir la fibre, hein, ce qui est un gros problème pour moi depuis près de 2 ans. Du coup, non, je passe par Adobe Premiere Pro, mais tu as quand même... les nouveaux processeurs qui arrivent, tu sais, tu as des ordinateurs portables maintenant qui embarquent de l'intercore de 12e génération, des nouveaux GPU qui vont théoriquement, ou en tout cas on tend vers cette tendance de pouvoir effectivement être capable directement sur un Chromebook de pouvoir faire des petits montages. Il y a LumaFusion que tu dois connaître, je pense, qui est du côté d'Apple, qui va bientôt arriver sur Chrome OS. Enfin, ils sont en phase de bêta actuellement.
D'accord.
Donc il y a des petites solutions qui vont arriver, mais pas aussi professionnelles, tu vois, qu'un Adobe Premiere Pro par exemple.
Bon, par contre, pour un parc informatique de la plupart des boîtes, ça peut largement suffire et je vous encourage à aller...
Totalement.
Est-ce que tu parles déjà de ta boîte ou pas encore ?
Ah oui, j'ai déjà communiqué auprès... Enfin, j'ai déjà fait une communication, on va dire, plus ou moins officielle. Donc
je le mentionne. Blicom-compagnie, donc Blicom, qui peut accompagner les sociétés, si c'est bien ça, à développer leur parc de Chromebook. Tu y crois vraiment ?
Disons, on va dire... Ah mais moi je suis à fond dedans et je l'ai vécu vraiment en entreprise et on va dire la composition idéale d'un utilisateur ce serait d'avoir tu vois la suite Google Workspace parce que Office 365 c'est bien beau mais c'est pas aussi stable qu'un Workspace en termes de collaboration. T'as du Google Workspace, t'as du Google Meet et derrière si t'as un Chromebook t'es rapidement opérationnel. Et là effectivement je me suis lancé un peu ce challenge de créer cette société qui reste je pense en théorie le premier pure player sur la partie Chrome OS, hein. D'autres se sont évidemment penchés sur les solutions Google Cloud, Workspace et compagnie et voilà l'idée c'est de vivre de ma passion, hein, c'est de pouvoir conjuguer la passion et le côté professionnel, quoi.
Super, bah écoute, Blicom, c'est la société qui pourra peut-être vous aider. Bah, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc qui vient de toi et de ton amour de la plateforme. C'est pas juste une pub que tu vois, une pub pour une boîte ou genre tu viens vendre ta salade. C'est vraiment, tu viens en tant que Chromebook Live depuis des années et là tu y vas encore plus à fond. Bah, bon courage, bon courage.
Alors, c'est gentil, l'émission n'est pas sponsorisée Blicom, hein,
non. Je rassure. écoute, mais peut-être qu'elle est sponsorisée par House of the Dragon. T'as fait ça cette semaine déjà. T'as regardé la nouvelle série HBO tirée de l'univers de Song of House and Fire et Game of Thrones.
Non, pas encore.
Non.
Je vais m'y lancer, mais je n'ai pas encore eu le temps.
Écoute, entre ça et The Rings of Power sur Amazon dans quelques semaines, on va être servi sur les grosses séries. De fantasy qui arrivent là, qui sont des porte-étendards du streaming. Et du coup, bah, c'est un petit peu, bon, je le mentionne comme ça parce que tout le monde en parle, mais aussi parce que c'est un de nos sujets du moment, un de nos sujets de la semaine. Et du coup, on se lance dans les infos principales. Non, c'est pas celui-là que je voulais lancer. Les infos principales. Parce que le streaming a le vent en poupe, figure-toi, Fred. Le savais-tu ? Les gens regardent de plus en plus d'émissions de télé en streaming. C'est une étude que je voulais mentionner parce qu'elle est symbolique, en fait. Je mentionne simplement également que House of Dragon, c'est pas mal. Le premier épisode, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a une scène un peu traumatique quand même, dedans, évidemment. Mais moi, ça m'a bien affecté. Et peut-être pas celle à laquelle vous pourriez penser. Mais non, si, quand même. Mais... Pour le calcul de Nielsen, il y a un truc vraiment emblématique, c'est qu'aux États-Unis spécifiquement, et sur les télés spécifiquement, les spectateurs ont regardé du contenu sur leur télé plus avec des apps de streaming qu'avec quoi que ce soit d'autre. Alors, il faut faire attention, parce que quoi que ce soit d'autre, ça inclut le câble et le hertzien. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même le streaming ne représente pas la majorité du média qu'on utilise pour regarder des trucs sur sa télé vraiment. Donc, il y a aussi le câble plus le hertzien, ça fait plus. Hein. Si je ne me trompe pas, le streaming, c'est presque 35%, le câble, presque 35%, et le hertzien, 21%. Et du coup, bon, c'est quand même plus d'un tiers pour le streaming, mais c'est le plus gros d'une courte tête. Et encore une fois, c'est regardé sur la télé. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui regardent aussi des trucs en streaming sur leur téléphone, leur iPad, leurs autres devices. Donc, c'est symbolique. Le streaming est en train d'arriver à un moment où il est le moyen de consommation de contenu principal, mais vraiment même sur la télé elle-même, avec des box, des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant à mentionner. Et dans le streaming, surtout le contenu regardé à la télé, Netflix, même si on parle beaucoup du déclin de Netflix, que ça va moins bien, etc., il représente quand même la première catégorie de contenu, de fournisseurs de contenu en streaming, donc 8%. Et derrière, c'est YouTube avec 7,3%. Donc, c'est quand même Netflix. Il reste au-dessus de YouTube, quand on parle de télé, évidemment. Mais Netflix, faut pas non plus l'enterrer trop, trop vite, quoi. Tu regardes encore la télé, toi, en câble ou en hertzien, ou c'est fini ?
Bah, écoute, moi, je fais partie, je pense, de cette tendance. Hein. C'est vraiment quasiment terminé. Ça veut dire que là, je dois être à... Bon, je suis à 100% sur des plateformes de streaming avec un bon, je pense, 80-90% sur du YouTube et le reste sur Netflix. Hein. Et bien entendu, devant la télé, hein, comme tu le soulignais. Et je pense que c'est globalement l'avantage qu'apporte la VOD, c'est-à-dire qu'on est... Pour moi, je considère que l'usage idéal pour le consommateur, c'est finalement de pouvoir choisir son contenu, où qu'il soit, à n'importe quel moment et à partir de n'importe quel appareil, tu vois. Et on est clairement dans cette tendance-là qui, pour moi, qui est assez naturelle.
Naturelle, et on y arrive, quoi. C'est vraiment... Et c'est marrant comme les géants du milieu s'y sont mis très, très tard, parce que maintenant, on a surtout aux États-Unis, genre les Paramount Plus, les Peacock, tous les services dont on n'entend pas vraiment parler ici, mais qui sont en fait les services des géants de la télé câblée aux US, et ils s'y sont mis il y a quoi, 2 ans ? Alors que ça fait des bien 10-15 ans qu'on voit arriver ce futur. On est vraiment dans le comment ça s'appelle, le dilemme incumbent dilemma, je ne sais plus comment ça s'appelle, de ceux qui sont en place parce qu'ils ne peuvent pas bouffer leur marché existant en créant quelque chose de nouveau. Et pourtant, le nouveau continue à gagner des parts de marché. Et là, on voit que HBO, par exemple, qui a vécu une fusion avec Discovery, est en train de faire super marche arrière sur le streaming, mais... Enfin, pas vraiment sur le streaming, mais sur les contenus. Le dilemme de l'innovateur. Merci, Guillaume. Le dilemme de l'innovateur, voilà. Innovator's Dilemma. J'ai la tête qui ne marche pas bien. C'était un truc avec HBO qui était remarquable. Ils ont décidé d'arrêter de produire du contenu exclusif à leur plateforme de streaming et de remettre leur contenu, se focaliser sur les sorties au cinéma. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'est leur force. Ça met plus de poids à un film qui est sorti uniquement au cinéma quand il arrive sur le service de streaming 3 mois après que s'il arrive directement sur le streaming, en fait.
Ok, je comprends. Je pensais que tu allais parler de cannibalisation par rapport à leur contenu original, mais ok, j'entends.
Ouais, c'est la nouvelle...
Ouais, c'est une bonne stratégie.
C'est la nouvelle politique du nouveau PDG de la boîte. Et bon, il a accessoirement beaucoup de télé-réalité avec Discovery, ce qui est un contenu qui est facile à produire et qui est donc peut-être plus rentable. Mais pour le gros contenu, il y a plein de choses qu'ils vont carrément arrêter. Et c'est peut-être pas bête, effectivement, plutôt que de se lancer dans une course difficile à gagner contre Netflix, Disney et peut-être d'autres, ils se disent « Bon, bah, nous, on continue à faire du contenu premium. » Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le contenu premium ? De manière un petit peu ironique, c'est des films qui vont au cinéma, même si... beaucoup de gens ne vont pas les voir au cinéma, bah ça fait peut-être que ça crée une envie, ça crée un événement, et puis ça recrée un événement quand ils arrivent et tout le monde les attend quand ils arrivent sur le service de streaming, c'est presque la sortie au cinéma est une sorte de campagne de presse.
C'est ça, c'est clairement ça. Quoi.
Ouais, c'est marrant. Un autre sujet important qu'on peut traiter aujourd'hui, c'est Google. Qu'est-ce qui se passe avec Google ? Ils changent encore leur moteur de recherche. Ils ont la nouvelle mise à jour de leur algorithme qui s'appelle, comment il s'appelle déjà ? J'ai perdu le nom. Helpful Content Update. C'est un petit peu genre le contenu utile, la mise à jour de l'algorithme du contenu utile. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, il s'agit de faire remonter et ressortir les résultats qui sont plutôt écrits par des humains et à destination vraiment d'humains plutôt que des contenus agrégés et des choses qui vont être reprises et liées vers d'autres types de contenus, des trucs qui sont vraiment conçus pour la recherche sur Internet, pour afficher de la pub et pour satisfaire les algorithmes, justement. Il y a plein de sites qui fonctionnent comme ça. C'est un peu quand même, ça reste un petit peu obscur comme mise à jour. Ils ne rentrent pas vraiment dans les détails. Tu comprends le besoin, la nécessité de cette mise à jour ? Ça reste un peu flou, je trouve, quand même.
Je pense qu'il y a un intérêt, enfin, de faire perdre aussi moins de temps aux consommateurs, tu vois. Enfin, tu peux avoir un lien lié du coup à un agrégateur qui tombe, tu vois, en top position au niveau du ranking. Tu vas cliquer là-dessus, tu auras un autre lien qui va t'amener sur autre chose. Donc lui, il aura profité en fait de ce clic pour être rémunéré. Donc effectivement, il y a moins de perte de temps, une meilleure expérience, je pense, pour l'utilisateur, et effectivement un côté un peu plus, je dirais encore une fois, transparent et de qualité, hein, d'où le naming aussi d'Helpful Content Update, ouais. Tu vois. Donc, moi, je trouve ça vraiment pertinent. Après, comme tu dis, c'est un peu sombre. Alors, est-ce que ça concerne, tu parlais d'agrégateurs, est-ce que peut-être les marques en jouent aujourd'hui pour faire des reviews un peu institutionnelles et jouent un peu avec les mots-clés pour rentrer, tu vois, en top ranking et donc avoir un discours qui va être plutôt très subjectif et orienté. Est-ce que ça va exclure potentiellement des marques qui feraient par exemple des reviews de produits sur leurs propres produits, tu vois, il n'y a pas forcément de pertinence. Bref, voilà, enfin, t'as raison sur ce côté sombre. Enfin, moi, je le vois comme ça, ouais.
C'est un élément qu'il ne faut pas oublier, effectivement, parce que les détails de l'algorithme restent très flous. On ne sait pas exactement ce qu'il met en priorité et ce qu'il favorise. Et du coup, bah oui, ça peut être inquiétant pour certains. On se dit, bah, c'est Google qui décide de ce qu'on met en avant dans le web, mais on ne sait pas comment ni pourquoi ils le font. Et parfois, ça peut avoir des résultats inquiétants. Il y a dans la chatroom, on mentionne aussi un élément qui est extrêmement important, c'est la prévalence de l'IA qui commence à réussir à faire elle-même de l'agrégation et on peut tout à fait imaginer qu'elle peut même écrire des petits résumés en disant, ah ben voilà, au lieu d'avoir genre je sais pas, vous faites une recherche, c'est une recherche que j'ai fait récemment, les meilleurs services de mind mapping, et ben elle va aller chercher 3 ou 4 services de mind mapping, faire un résumé d'autres reviews qu'elle trouve, et puis vous mettre le lien vers le truc avec des liens parfois rémunérés. Et du coup, oui, c'est un contenu qui peut être mis en avant sur Google, genre les meilleurs services de mind mapping. Bah, si vous cherchez meilleurs services de mind mapping, ça va vous proposer ça. Sauf que c'est une étape qui va souvent, pas à chaque fois, mais souvent vous faire perdre du temps. Et en plus, si c'est automatisé avec de l'IA, ben on peut en écrire, on peut en créer des dizaines de pages avec très peu de travail derrière. Un autre élément qui est hyper intéressant à noter et que notait The Verge dans l'article qui parlait de cette mise à jour, c'est le fait qu'il y a une tendance importante à ajouter le mot Reddit aux recherches qu'on veut faire sur Google. Est-ce que tu peux deviner pourquoi les gens ajoutent Reddit dans leurs recherches ?
Parce que du coup, j'imagine que tu dois avoir des contenus de qualité du côté de Reddit au niveau des reviews, par exemple.
C'est exactement
et,
ça.
Enfin, et faites par des humains, du coup.
Voilà, exactement, c'est ça. C'est que en mettant Reddit dans la requête, eh ben on va avoir a priori un résultat sur Reddit. Et pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde connaît Reddit, mais le site Reddit, c'est un site, une sorte de site social. C'est pas un réseau social, mais de site social où on peut notamment poser des questions et avoir des réponses de personnes qui regardent vos questions et qui ont une certaine expertise ou qui essayent de vous répondre. Et du coup, le fait qu'on ait de plus en plus dans les requêtes de recherche Google la mention de Reddit, c'est que les gens veulent avoir des réponses. On en revient à l'explication de Google, écrite par des humains, pour des humains. Donc, je crois que c'est un truc assez important. Ça arrive là, cette semaine, si je ne me trompe pas, au niveau mondial en anglais, et puis ça arrivera après quelques, sans doute, changements, ça arrivera dans d'autres langues bientôt. Mais ce changement-là arrive maintenant en anglais. Alors, le Helpful Content Update arrive dès maintenant, ça y est, en anglais, et puis il y a les changements de ranking qui sont divisés en deux parties, qui arrivent un petit peu plus tard. Bref, dans les quelques semaines à venir, ça sera implémenté en anglais et puis dans les langues, dans les autres langues, dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est vraiment une tendance intervenir.
Ouais, juste sur cette partie dont tu parles au niveau de Reddit, parce que moi je le vis aussi un peu au quotidien, parce que dans le cadre notamment de Chromebook Live, je parcours pas mal je vais appeler ça un lobby, c'est pas un lobby, mais c'est un sujet Chrome OS, où t'as vraiment, enfin, partons du principe que Reddit, c'est un gros forum social. De base, un forum, c'est plutôt social parce qu'on partage des idées, etc. Mais en tout cas, on a des remontées utilisateurs, tu vois, sur certaines nouveautés qui apparaissent. Donc, t'as vraiment un contenu humain qui est constamment remonté et un bon moyen de se sourcer au niveau des informations et des reviews. Et tu peux avoir, par exemple, des utilisateurs qui posent des questions du type « Ah, mais tiens, tel Chromebook, vous en pensez quoi ?» Et donc, effectivement, t'as des humains qui vont venir te répondre. Donc, ça rejoint, en fait, cette pertinence au niveau de Reddit. C'était juste pour ajouter ça. Moi, je l'utilise vraiment au quotidien dans ce cadre-là parce qu'on a des vrais commentaires, des vrais retours utilisateurs.
Et c'est le cas pour moi aussi, hein. Je m'en rends compte quand je fais une recherche et que je vois différentes réponses. D'une part, il y a souvent beaucoup de Reddit, mais surtout, je choisis moi en priorité une réponse de Reddit parce que je sais que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu le problème. Et c'est même encore plus utile que les sites de support des sociétés qui font le produit sur lequel je fais une recherche souvent.
Donc, clairement.
Ouais. D'ailleurs, entre parenthèses, une news qui est liée à celle-ci, c'est que Reddit a annoncé un portail de développement qui va démultiplier la possibilité de créer des outils et des extensions et des bots pour Reddit et donc pour utiliser le contenu de Reddit. Alors, c'est encore en bêta, mais on peut imaginer que la plateforme Reddit risque d'avoir de plus en plus d'utilisations intéressantes, différentes, nouvelles, avec cette nouvelle annonce. Alors, la suite, oui, on me demande est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent n'importe quoi sur Reddit. Évidemment, il y a aussi beaucoup de théories du complot, il y a beaucoup, bah oui, comme partout. Mais quand on fait une recherche sur un sujet, on va plonger directement sur le truc qui... les recherches qu'on fait, généralement, c'est pas est-ce que les Illuminati existent, hein, quand on veut aller sur Reddit, c'est plutôt j'utilise tel logiciel et dans telle configuration sur telle machine, il y a tel problème. Je parle d'informatique parce que c'est ce que je connais, mais un truc hyper spécifique qu'il y a genre peut-être 3 personnes dans le monde qui ont eu le problème avant vous et elles sont toutes allées sur Reddit. Donc, c'est pour ça qu'on peut trouver les réponses. TikTok est partout, tout le temps, absolument. Et je vais parler de TikTok spécifiquement dans une seconde, mais il y a une expérience intéressante qui montre l'influence de TikTok, là encore, sur Amazon. Amazon est en train de tester un nouveau produit qui s'appelle Inspire, c'est ça, qui est en fait le format TikTok pour faire une sorte de télé-shopping, pour vous proposer différents produits qu'ils pourront, on peut l'imaginer, proposer aux marques ou à des influenceurs. Et donc, vous pourrez, au lieu de rechercher des produits sur Amazon en naviguant dans les pages et puis en ayant des bêtes listes, vous posez, comme devant la télé et le télé-shopping ou le Twitch achat, que les gens, les amis de Nowtech connaissent bien, je vais dire Nowatch, et ben vous pourrez vous poser et ingurgiter les images qu'on vous propose. Bon, je plaisante, mais c'est vraiment une extension de l'influence, possiblement, ou de la communication des marques. Le format me semble assez adapté. À voir si ça sera lancé. Toi, t'es prêt à te poser devant... devant l'app Amazon et à te laisser montrer des produits qui te plairont peut-être?
Bah, je pense pas que je vais ouvrir l'application pour voir entre guillemets le feed de vidéo ou autre, mais si effectivement tu sais t'es en train de parcourir l'appli pour rechercher un produit et qu'on te propose de découvrir des nouveautés un peu, alors moi qui suis très tech etc et j'adore découvrir de nouveaux produits, bah je pense que ouais ça peut être hyper intéressant.
Ouais. Ouais, moi je serais tout à fait prêt à, tu vois, faire un regarder un flux dédié par quelqu'un que je connais un petit peu, un prescripteur auquel je fais confiance, ou les trucs que l'algorithme décide qui correspondent à ça. Ouais, ça pourrait me faire découvrir des choses et donc passer plus de temps sur Amazon et acheter plus, quoi.
Il me semble aussi que sur AliExpress, si je dis pas de bêtises, donc le concurrent chinois, tu as des live shopping.
Ouais, alors
en train
c'est...
de parcourir des produits et je ne sais pas si ça va être porté du coup potentiellement sur Amazon. C'est peut-être
alors,
compris
c'est un
en fait.
Qui...
Dans ce...
C'est un ouais. truc, une tendance qu'ils chassent depuis un moment. Le live shopping, c'est un truc qui est très populaire en Asie et en Chine et que Instagram et Amazon ont essayé de faire décoller en Occident et qui ne décolle pas vraiment. Alors c'est un autre moyen peut-être d'attaquer cette tendance, et peut-être que ça accrochera mieux comme ça. Mais oui, le live shopping, c'est hyper important, oui, pour le commerce en ligne. C'est un élément que les grandes marques essayent d'importer, tout à fait. Et j'ai peut-être pas été clair, c'est un truc qui se présente sous la forme d'un nouvel onglet dans l'app Amazon. C'est en test encore, hein, donc peut-être que ça sera sur le site aussi, mais à ce stade, c'est dans l'app Amazon. Dans l'app Amazon, il y a en plus de... Home, votre compte, le panier, etc. Il y a un petit truc avec un petit losange, un carré de traviole qui propose ce contenu-là. Donc, c'est vraiment un onglet dédié, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a eu plusieurs news sur TikTok. Et alors, l'une d'entre elles, c'est la possibilité de partager les stories TikTok directement sur Reddit. Encore eux, hein, ils survivent chez Reddit.
Ils sont de retour.
Voilà, sur Facebook et sur Instagram, donc TikTok est en train de... Alors, ce n'est pas les longs formats, c'est les stories spécifiquement. D'ailleurs, moi, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les stories TikTok et les vidéos longues TikTok. Mais pour les stories, on pourra les partager directement sur les autres plateformes, ce qui n'est pas bête, parce que toutes essayent de copier TikTok. Et du coup, plutôt que se faire bouffer en quelque sorte ou de prendre le risque de se faire bouffer, TikTok dit, bah, OK, il y a plein de gens qui repostent des trucs de TikTok sur Instagram. Bah, on va le faire très simplement et de manière à ce qu'il soit peut-être plus simple de revenir vers TikTok quand c'est une vidéo, une story qui a été postée depuis TikTok. Mais le truc vraiment important, et là on vient plus dans le sérieux du rendez-vous tech, c'est cette information sur la manière dont TikTok gère les navigateurs dans l'app, enfin les liens qui sont ouverts dans l'app, dans le navigateur de l'app, sur iOS en particulier. Et c'est un problème dont on a entendu parler avec Facebook et Instagram déjà par le passé. C'est-à-dire que, enfin, par le passé, c'était il y a une ou deux semaines, et c'est le même chercheur qui a découvert le problème, c'est Felix Krauss. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur un lien dans TikTok, eh ben, ça ouvre le navigateur dans l'app, le navigateur interne à l'app. Vous pouvez choisir d'ouvrir le lien dans Safari sur iOS, donc dans une app extérieure, mais si vous ne le faites pas, si vous ne changez pas ce paramètre, ça ouvre dans l'app. Et TikTok injecte un code en JavaScript qui permet à TikTok d'avoir toutes les informations sur ce que vous voyez et ce que vous faites sur le site en question, à tel point qu'ils peuvent, en théorie, récupérer le texte que vous tapez dans la page web en question que vous avez ouvert, y compris les identifiants, mot de passe, etc.
Credential, ouais.
C'est vraiment inquiétant. Alors, c'est aussi un truc que, comme je le disais, plus ou moins, hein, fait Meta, donc Facebook, Instagram, et ils se sont fait alpaguer pour ça il y a une ou deux semaines. Là, encore le même problème du côté de TikTok. Alors TikTok, ils disent oui, non, mais c'est un truc externe, on ne s'en sert pas pour faire ci et ça, c'est juste un package standard, machin. Bon, TikTok, on sait comment on peut leur faire confiance par rapport à ce qu'ils nous jurent devant leur grand Dieu. Mais donc, c'est vraiment, bon, évidemment, le fait que l'app soit chinoise ajoute à la suspicion qu'on peut avoir de ce problème. Mais c'est donc pas la première fois. Est-ce qu'il y a un problème avec ces navigateurs in-app qui sont ouverts dans les apps, surtout par les grandes apps? Et puis, à quel point est-ce que c'est un problème peut-être, Fred, ce genre de truc? Est-ce que c'est des chercheurs en sécurité qui s'excitent, ou est-ce que c'est vraiment inquiétant?
Malheureusement, on le saura pas vraiment, et encore une fois, c'est le discours un peu officiel de TikTok. Enfin, moi, ce que je conseillerais avant tout, c'est de que ce soit au niveau des credentials, donc des informations personnelles d'identification, c'est de procéder absolument, tu sais, à la double authentification, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes et dans mon entourage, et on va dire des générations un peu anciennes, qui procèdent pas à ça, qui ont toujours le même mot de passe et qui peuvent effectivement, qui sait, demain, ça, c'est des informations qui peuvent fuiter aussi. Si elles sont mal gérées du côté de TikTok et que tu es effectivement des leaks, donc
alors juste non, pour préciser,
c'est mon petit conseil,
c'est, ouais. c'est le JavaScript, le code qui est injecté, qui peut faire ça. On n'est pas 100% certain, on n'a pas la confirmation qu'il l'utilise à cette fin, mais c'est possible, c'est ça qui nous inquiète. Mais dans tous les cas,
ouais, et par précaution,
oui, par précaution,
voilà, ouais,
ouais. Donc, moi, la chose qui me frappe, c'est ces problèmes récurrents de navigateurs in-app, et je me demande si Apple ne va pas devoir sévir et siffler la fin de la récré à un moment, parce que le fait que les apps aient les mains libres quand ils utilisent le navigateur qui s'ouvre dans l'app elle-même et pas Safari qui vous fait sauter d'une app à l'autre, alors c'est plus pratique de rester dans l'app dans de nombreux cas. Mais bah, là, on a bien vu que ça n'est pas, c'est pas utilisé de manière responsable. Et donc, même s'il y a plein de justifications pour le faire comme ça, je pense qu'Apple, qui vend ses appareils comme des appareils hyper sécurisés, va devoir faire quelque chose. Alors, soit de manière logicielle, faire en sorte qu'il soit impossible d'injecter du code dans l'application. Donc, on doit utiliser, de la même manière qu'on utiliserait Safari, la page telle quelle, et pas pouvoir injecter quelque chose. Je pense que c'est possible techniquement de le faire, mais je pense qu'Apple va devoir serrer un petit peu la vis, quoi. Parce que là, c'est...
Après, la question aussi à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font au niveau du debugging? Enfin, c'est clairement ça. Pourquoi tu as besoin en fait de débugger cette page qui est exécutée du coup en fait en ouais c'est le navigateur c'est l'application pardon qui fait appel au navigateur interne du téléphone mais via l'application. Pourquoi en fait ils ont besoin de débugger cette partie là et est-ce qu'ils peuvent pas limiter tu vois la consultation de variables? Alors je suis pas non plus un spécialiste, mais limiter finalement que certaines informations
Je pense que c'est possible, techniquement, évidemment. Mais comme c'est le web et que le web est une plateforme ouverte, chacun peut y faire ce qu'il veut.
Bien sûr. Ouais.
Et du coup, on a bien vu que chacun y fait ce qu'il veut. Certains développeurs abusent de ce pouvoir qu'ils devraient pourtant utiliser avec grande responsabilité. Bon, j'avoue que autant pour Meta, Facebook, Instagram, tout ça, je me disais, oh, ok, bon, c'est encore Zuckerberg qui fait des siennes. Et ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Oui, ça m'inquiète autant que Facebook m'inquiète. Autant là, on a vu déjà les problèmes d'accès aux informations que pouvait avoir ByteDance, la société mère de TikTok, qui est chinoise, qui pouvait avoir accès aux informations des utilisateurs occidentaux malgré l'assurance mordicus qu'en avaient fait les responsables occidentaux en disant que non, ça n'était pas du tout accessible par la maison mère chinoise. Puis on a appris quelques mois plus tard qu'en fait, si. Donc, tu vois, ça, c'est tout de suite un truc un petit peu plus préoccupant quand c'est TikTok qui fait ce genre de choses. Bon, après, est-ce que je pense que ByteDance est en train de récupérer tous les quelques mots de passe et... les quelques mots de passe et identifiant des gens qui, dont il se trouve qu'ils ouvrent le navigateur depuis TikTok pour faire un truc sur un compte de quelque chose, je pense pas que ça soit ça, mais bon, qui sait,
c'est quand même... Je pense pas, même en termes de volumétrie.
Voilà.
J'ai des doutes, ouais.
Mais, bon, disons que si on faisait les choses proprement, ça serait bien de pas avoir un code qui permet tout ça dans l'app. Moi, je peux tout à fait imaginer que ça soit TikTok qui utilise un package qu'ils ont acheté quelque part, qui peut tout faire pour le cas où, mais qui n'utilise pas ces choses-là. Il n'empêche, ça fait très sale. TikTok encore, il y a une coalition de plusieurs dizaines de stars de TikTok, c'est assez intéressant, qui ont, alors c'est 70 personnes, qui ont combiné 51 millions de followers, alors peut-être qu'il y a des gens qui se recoupent, mais 51 millions de followers, qui a signé une sorte de pledge, de... promesse, ils font une sorte de mouvement social qui dit qu'ils ne vont pas travailler avec Amazon jusqu'à ce qu'Amazon traite mieux ses employés. Alors, ce qu'ils disent, c'est pas traite mieux ses employés, mais c'est qu'ils accèdent aux demandes des syndicats. Vous savez qu'Amazon a fait ce qu'on appelle du union busting, c'est-à-dire qu'ils empêchent par des moyens plus ou moins légaux leurs employés de se syndiquer, ce genre de choses. Et on connaît tous les moyens, les conditions de travail un petit peu critiquables qui ont été évoquées pour Amazon, en particulier dans leurs entrepôts pour leurs travailleurs. Et donc, ça, c'est des choses qu'on connaît. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce mouvement de TikTokers, des jeunes, hein, évidemment, la génération Z essentiellement, 70, qui disent on ne va pas travailler avec Amazon jusqu'à ce qu'ils améliorent les choses. Et travailler avec Amazon, c'est, je saurais pas dire si c'est anecdotique ou pas, 70 grandes stars de TikTok. Peut-être que ça va pas peser sur Amazon, je pense, en tant que tel, mais c'est quand même un bad buzz avec des gens qui parlent beaucoup aux jeunes, et les jeunes, bien sûr, forment leurs habitudes dans ces années-là. Donc, je suis pas sûr que Amazon soit super content de la chose non plus. Et puis, c'est un truc, les influenceurs travaillent avec Amazon pour avoir des commissions. Vous savez, quand ils recommandent un produit, eh ben, ils peuvent mettre un lien affilié.
L'affiliation, ouais.
C'est ça. Et l'affiliation pour les YouTubers, pour certains YouTubers, représente une grosse partie de leurs revenus. J'imagine que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur TikTok, mais c'est dans le monde de l'influence quelque chose qui compte. Donc, bon, la relation avec Amazon est intéressante. Encore plus que ça, ce qui me frappe, c'est le mouvement de jeunes influenceurs TikTok qui peut-être se privent d'une part de revenus. J'imagine quand même qu'ils peuvent survivre sans leur affiliation Amazon, sinon ils ne le feraient peut-être pas, mais qui se privent d'une part de leurs revenus et surtout qui expriment quelque chose. C'est un petit peu flou en plus. Ils acceptent les demandes des syndicats. Le truc, c'est quand est-ce que quelqu'un va siffler pour dire « Ok, c'est bon, les syndicats ne vont jamais dire « Ok, Amazon ». Enfin, Amazon ne va jamais dire « Ok » à toutes les demandes des syndicats, c'est impossible. Donc, combien de temps est-ce qu'ils vont continuer cette sorte de boycott ? Je ne sais pas, mais le mouvement est intéressant. Et je me demande si ça peut pas faire des émules ensuite pour d'autres types de mouvements de ce type et de boycott de ce type. Donc, voilà, TikTok, ça, c'est l'endroit où les choses continuent à se passer. Tu es prêt à faire un boycott total de tous tes revenus d'affiliation Amazon sur ta chaîne YouTube ?
En fait, j'en joue très peu, pour être franc avec toi. Malheureusement, c'est pas très rémunérateur. Et bon, je le fais avant tout vraiment par passion, ce que je fais sur Tech Live. Et effectivement, après, si je peux avoir un peu d'argent pour investir, c'est toujours bon à prendre. Mais du jour au lendemain, je ne pense pas cesser, disons-le, commander par exemple sur Amazon.
C'est vrai que je parle d'affiliation, la nouvelle génération. On commande tous sur Amazon.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'effectivement, au travers des médias, au travers de l'indépendance que tu peux avoir sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Donc, tu as une voix qui porte et tu peux effectivement peut-être changer les choses. Mais je ne pense pas que les communautés, en tout cas de tous ces influenceurs, vont cesser, tu sais, du jour au lendemain de commander chez Amazon. Donc, mais c'est quelque chose qui est encore une fois très tendance parce que T'as eu quand même pas mal d'influenceurs aussi sur YouTube qui se sont ligués par rapport, tu sais, aux conditions des Ouïghours, sur certaines causes, en fait, qui sont pour le coup légitimes. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ces influenceurs avoir cette indépendance, avoir cette voix-là et pouvoir tenter de changer les choses. Et pour certains, ils y parviennent, ou en tout cas, tu vois, récupérer de l'argent, à pouvoir financer d'une certaine manière ces différentes causes. Donc, non, c'est toujours intéressant à constater, mais c'est pas pour autant, comme je te le dis, je pense pas que les communautés vont s'arrêter du jour au lendemain à commander sur Amazon avec un Amazon Prime H+1, tu vois.
Ouais, soyons clairs. La grande force, évidemment, de la plateforme. Moi, je pense que, on est un petit peu comme dans une situation avec Facebook. Il y a plein de gens qui détestent Facebook, mais qui continuent à l'utiliser parce qu'ils sont là. Sur le long terme, bon, je ne sais pas si Amazon, parce qu'en plus, il y a toute une composante physique qui est difficile à répliquer, évidemment. Mais sur le long terme, l'influence sur TikTok se fait à un moment où les habitudes se forment. Et oui, je ne sais pas si les plus jeunes peuvent se passer d'Amazon tout simplement, ou si c'est déjà trop tard. Mais peut-être que, tu vois, si c'est un mouvement genre, moi, je vais acheter à côté de chez moi plutôt que de commander chez Amazon. Je ne sais pas si ça peut donner quelque chose. C'est vrai qu'Amazon est quand même bien en place, on va dire. Eh bien, écoutez, voilà pour les trois sujets importants. Et du coup, j'applaudis. Vous savez qui j'applaudis ? Est-ce que tu peux imaginer qui j'applaudis, Fred ?
Non, du tout.
Du tout. J'applaudis les Patriotes. Et oui, bravo les Patriotes, bravo à vous tous et à vous toutes qui soutenez l'émission. Bravo parce que vous payez les couches de ma fille. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Et les couches, on ne les commande pas sur Amazon. Non, merci vraiment à tous les soutiens qui soutiennent sur Patreon. À vrai dire, je leur dis merci, mais en fait, je dis merci, je les représente pour vous qui n'êtes pas patriotes, parce que eux, ils ont dans leur flux privé une version de l'émission où il n'y a pas de pub, il n'y a pas ce petit laïus au milieu, il y a des contenus bonus, donc ils n'entendent pas ce que je suis en train de dire. Donc, en fait, je pense que c'est une chose à laquelle vous pouvez penser en écoutant cette émission, c'est vous dire, c'est grâce à eux que cette émission existe, et les remercier un tout petit peu dans votre tête. Et si vous voulez, vous aussi, faire partie de ces gens que je remercie pour les couches de ma fille, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et devenir patriote. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend exactement 1 minute et demie si vous le faites sur votre téléphone là tout de suite maintenant. Et puis vous pouvez aussi, quand vous rentrez chez vous et que les clés rentrent dans le bol, que ça fait cling dans le bol, là vous dites Patrick, cling Patrick, et vous dire « Ah, j'avais oublié, il faut que j'aille sur patreon.com/rdvtech. C'est vrai, il faut que je le fasse. » Entre parenthèses, merci aussi à Echelon75 qui dit sur iTunes « C'est une honte de donner 5 étoiles. C'est une honte de n'accorder que 5 étoiles à notre Patrick qui en mérite 10 !» Ah, c'est très gentil, Echelon 75. Si vous aussi, vous pensez que je vaux 10 étoiles, ou que, en tout cas, moi, je ne sais pas, mais que l'émission vous apporte quelque chose, qu'elle vous fait passer un bon moment et qu'elle vous informe un petit peu, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com
pour la soutenir.
Comme quoi, pardon ?
Commandez des couches.
Commandez des couches et envoyez-les-moi. Non, envoyez-moi des sous sur patreon.com/rdvtech et je me chargerai d'acheter les couches directement. Sinon, c'est compliqué. Il y a des histoires de TVA, d'impôts à payer sur les trucs qu'on reçoit, tout ça. C'est plus facile. Comme ça, tout est géré par mon comptable et je peux payer ma TVA et mes impôts comme il faut. patreon.com/rdvtech.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on enchaîne avec la suite qui est le reste de l'actu qu'on va détailler un petit peu plus rapidement peut-être. Alors, c'est vrai qu'on me dit il y a des patriotes qui regardent sur Twitch et donc qui entendent ce petit laïus au milieu qui a été coupé pour les auditeurs qui ont le flux privé où je les remercie. Bah donc, il y a des gens qui ont double remerciement. Il y a quelques sujets là que je vais évoquer qui sont hyper intéressants, mais c'est des longs articles que je vais mettre dans la newsletter. Donc vous pouvez vous abonner à la newsletter si vous le souhaitez sur notrepatrick.com. Le lien est aussi dans les notes de l'émission. Mais il y a ces quelques sujets que je voulais évoquer quand même ici parce qu'ils sont hyper intéressants. Et le premier d'entre eux, on va encore parler de jeunes, de la génération Z et de l'application Find My App. D'une manière générale, des applications de localisation en direct. Vous les connaissez, hein, j'imagine, sur les iPhones notamment. Il y a plein d'autres services du genre, des applications qui vous permettent de retrouver vos objets perdus, vos objets Apple perdus. Et vous pouvez aussi y ajouter la partie Find My Friends, c'est-à-dire trouver et savoir où sont des personnes qui ont partagé leur localisation avec vous. Et du coup, vous pouvez y ajouter la personne que vous voulez, elle peut se retirer au moment où elle veut, etc. Et il y a dans les groupes d'amis, chez les universitaires ou peut-être même chez les gens plus jeunes, qui s'ajoutent comme ça sur les applications Find My Friends de localisation. Et donc, ça crée un autre élément de tissu social en quelque sorte, c'est un petit peu comme quand on va suivre quelqu'un sur un réseau social ou etc. Mais par contre, ça ajoute évidemment un niveau de violation de vie privée, mais volontaire. Mais peut-être qu'il y a une sorte de pression de s'ajouter parce que ça veut dire qu'on est vraiment amis. Le fait, ils en parlent dans l'article. Vraiment, je vous encourage à aller le lire hein, parce que là, je vais que gratter la surface. Mais ils s'encouragent à. Ils mentionnent le fait que quand on s'ajoute, c'est genre la preuve d'amitié ultime. Et du coup, quand on se supprime de ces applications, c'est genre, c'est pire que de se faire unfollow sur Twitter, quoi. Moi, je me souviens que j'ai fait. Je regarde pas trop les gens qui m'unfollow, mais il m'est arrivé, d'une part, de faire des opérations subtiles, genre je réponds à quelqu'un et puis je like le truc après et je follow après pour voir si elle va me suivre. Et quand j'ai réussi, c'est genre, il y a machin qui me suit, qui est vraiment, il y a des personnes un petit peu connues que j'admire et je me dis, waouh, cette personne me suit trop fort. Là, ça doit être un petit peu la même chose, mais si la personne te suit plus, moi, il m'est arrivé de voir pareil des personnes que j'admire qui me suivaient et puis je vais voir leur profil à un moment et ils ne me suivent plus. Et c'est genre, oh, mais quelle déception! Donc là, dans les groupes d'amis, j'imagine que c'est un petit peu le même genre de mécanique, mais avec en plus le fait que on peut toujours savoir où est votre ami. Alors, encore une fois, dans l'article, ils expliquent très bien, ça évite des conversations un petit peu inutiles, genre « Ah, t'es où? Tu fais quoi ? Ah, ok, j'arrive, je te rejoins, machin. » Mais oui, quand même, le fait de donner sa localisation en direct, tout le temps, à quelqu'un, ça me paraît un petit peu angoissant, quoi. Je sais pas. Peut-être que c'est une question de génération. Tu le ferais, toi ?
Je pense qu'on est devenus des boomers et non, je le ferais pas naturellement et je le fais par contre de temps en temps vraiment. Je crois que via Google Maps, hein, si je te dis pas de bêtises, je peux faire un share my location, etc. Mais ouais, vraiment ponctuel. Mais j'ai tendance à avoir en tête, tu vois, cette nécessité soit de l'annuler ou en tout cas, je sais plus si je peux la programmer pour que ça dure.
Bah qu'une heure ou deux. Partager avec une personne pendant une heure, deux heures, c'est pratique si tu dois te retrouver pour le pique-nique. Tu n'as pas besoin de savoir alors t'es où, t'arrives, machin, oui, c'est...
Mais en tout cas, non, j'ai pas cette relation avec mes amis autour du partage, tu vois, de location. Alors, ça se développe, hein, tu l'as même sur Snapchat, parce que malgré le fait que je sois un boomer, j'utilise quand même un peu Snapchat, et tu peux voir effectivement la position géographique. Oui, bah écoute, ouais. Mais en tout cas là, j'ai en tête Snapchat où effectivement t'as la reproduction, tu sais, de ton emoji sur la carte, etc. Ce qui est plutôt assez fun, hein. Enfin, c'est bien réalisé. Ouais. Mais non, je le ferai pas assez naturellement, hein, Patrick. Non.
Remarque, je dis ça, mais en même temps, avec ma femme, on a notre localisation partagée avec ma femme complètement. sans, tu vois, sans limite, on est juste, on a juste partagé le truc. Et c'est hyper pratique. Et bon, on se fait, enfin, on se fait confiance, on ne regarde pas, tu vois, sans besoin ou même, s'en fout, quoi. On est vraiment, on se fait entièrement confiance. Et donc, je me dis, je peux comprendre que ça gêne certaines personnes, tu vois. L'idée d'avoir, même avec ton conjoint ou ta conjointe, de partager la localisation. Nous, on le fait et ça ne nous dérange pas. Au contraire, c'est super pratique. Quand on est en vadrouille et qu'on est, on doit aller quelque part et qu'elle est quelque part et moi, je... Bref. Mais... ça évite justement les messages « Ah, t'es où, t'en es où, t'arrives, etc. » Mais je peux comprendre que ça gêne certains, quoi. Et dans les groupes d'amis, j'imagine tout à fait la pression. Bref, allez voir l'article du New York Times, il est super bien fait. Un autre article que j'ai beaucoup aimé, c'est un article du Wall Street Journal sur la manière dont l'IA et les données sont utilisées dans les universités aux États-Unis, dans certaines universités aux États-Unis, pour améliorer l'expérience et même les performances des étudiants. Ça a pris la forme d'un chatbot tout simple, il y a quelques années, qui a évolué et qui aujourd'hui permet de faire beaucoup de choses différentes. D'une part, d'envoyer des rappels à certains étudiants quand on sent qu'ils sont en décrochage sur une matière ou ce genre de choses, les encourager ou leur discuter avec eux tout simplement. Ce qui a, de manière démontrable, amélioré les performances de certains étudiants. Et c'est marrant, c'est encore plus le cas chez les plus défavorisés. C'est-à-dire que ça apporte une sorte de système de soutien un peu artificiel, mais qui reste tangible, enfin efficace, qu'ils n'auront peut-être pas par ailleurs. Et puis, un autre aspect qui est hyper intéressant aussi, c'est le fait que, dans certains cas, il y a des étudiants qui se sont confiés au chatbot parce que, bah, ils avaient soit vraiment, pas vraiment de gens à qui parler, soit carrément le fait qu'ils sachent que ça soit pas une vraie personne leur a permis de se débloquer et de dire des choses genre « Ah, je me sens pas bien, genre « Ah là là, de toute façon, la vie, ça sert à rien, lol. » Et du coup, le bot a signalé ça au système de soutien de l'université et il y a une vraie personne, pour le coup, qui a contacté l'étudiante en question et qui a dit « Ah, est-ce que tu es sûr que ça va? Tu veux pas parler à quelqu'un ?» Et ça a aidé la personne. Il y a des chiffres. Encore une fois, lisez l'article, mais il y a des chiffres intéressants, genre une bonne partie des gens qui ont été soutenus et contactés proactivement par le chatbot, qui fait partie de l'interface de l'université, ont augmenté leurs notes dans une matière d'une lettre. Vous savez, aux États-Unis, ils ont A, B, C, D, E, F. Ils ont augmenté d'une lettre. Genre, tu passes de F à E ou de C à B. C'est notable quand même. Entre un C et un B, il y a une grosse différence. Donc, plein de moyens d'utiliser, alors c'est le chatbot et les données qu'ils vont capter sur les étudiants, il y a évidemment certains risques qui sont à prendre en compte, mais c'était vraiment intéressant, c'était pas juste université utilise intelligence artificielle, machin, c'était vraiment l'université utilise les données pour soutenir le parcours des étudiants. Et même si c'est artificiel, bah, il y a des résultats qui sont concrets, quoi. J'avais trouvé l'article hyper intéressant.
Non mais ouais, c'est les nouvelles technologies, tu vois, au service de l'humain. Et pour le coup, là, quand on parle, c'est vrai que c'est super pertinent. Et si ça peut aider les universitaires, tant mieux. Ne serait-ce que, tu vois, de temps en temps, si par exemple tu reçois, j'en ai aucune idée, hein, mais c'est un exemple, mais tu reçois une mauvaise note, que derrière tu sois rattrapé, qui sait, par un chatbot qui t'encourage à t'orienter vers telle chose, enfin tel document, pour pouvoir, tu vois, améliorer tes connaissances avec un petit message d'encouragement. Je pense que ouais, ça peut être super, notamment pour les rappels aussi.
C'est ça, il y a des questions de décrochage ou genre t'as pas encore rendu ton devoir 4 jours avant et on sait que grâce aux données, il y a encore plein de données, hein, mais on sait que si le truc n'a pas été rendu avant dans les tel et tel type de matière, bah, il y a 70% de chances que la personne ne le rende pas du tout, donc on va lui envoyer un rappel et l'encourager à aller à la librairie. Il y a des trucs tout bêtes, genre il y a beaucoup d'étudiants qui ne pouvaient pas pendant la pandémie rendre leurs devoirs parce qu'ils n'avaient pas soit un ordinateur soit une connexion, et il y a l'université qui a envoyé des ordinateurs à plein à des centaines, des milliers d'élèves, justement parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pour ça qu'ils décrochaient, etc. enfin bref, hyper intéressant cet article du Wall Street Journal. Et un truc, alors on va quand même être un petit peu dans l'angoisse aussi, un papa spécifiquement qui a pris qui avait une inquiétude sur son enfant qui était peut-être malade et qui avait spécifiquement un problème dans les parties génitales, et du coup il a contacté son médecin qui lui dit « Ok, prends une photo ». Donc, il a pris une photo du pénis de son fils et il le tenait visiblement, qui était c'est un enfant un tout petit de quelques années. Il le tenait pour qu'on puisse bien voir le truc enflé, etc. Et il les a envoyés à son médecin. Jusque-là, tout va bien. Sauf que il l'a pris avec un téléphone Android. Ça serait la même chose avec d'autres téléphones sans doute, hein, mais un téléphone Android qui était connecté à Google Photos. Et donc, la photo a été uploadée sur le serveur de Google automatiquement parce qu'il envoyait toutes ses photos prises. Et du coup, Google les a analysées avec une intelligence artificielle et elles se sont retrouvées flaguées comme contenu pédophile. Jusque-là, vous dites, c'est le truc automatique. À partir du moment où c'est passé entre les yeux d'un humain, on va se rendre compte que ce n'est pas un problème. Sauf que l'humain en question, c'était une personne qui était dans les services anti-pédophilie du gouvernement, qui avait, j'imagine, uniquement les photos en question et pas de contexte, et qui a donc dit, confirmé la décision de l'IA, que c'était bien une photo pédophile. Et du coup, Google a non seulement fermé, effacé le truc, contacté les autorités et fermé le compte de l'utilisateur en question, qui travaillait sur Google, enfin qui avait plein de trucs, sa vie et sa vie professionnelle sur les comptes Google. Là, vous vous dites, OK, bon, il y a eu une erreur. À un moment, on va se rendre compte que les autorités vont chez la personne en question, évidemment, hein, contactée pour suspicion de pédophilie, évidemment, on ne va pas laisser ça passer. Les autorités y vont, il y a la police qui débarque chez lui, qui saisit tout ça. La police enquête, se rend compte qu'effectivement, il y a eu une erreur, que ça a été mal interprété, que c'était une photo envoyée à son docteur. Et là, vous dites, OK, donc tout a été corrigé. Mais c'est là que le vrai problème intervient, parce que info positive sur un truc automatisé, même avec un truc inspecté par un humain, ça peut arriver. Mais après, quand l'enquête est faite, on se rend bien compte qu'il n'y a pas eu de crime. Et il a eu, le père, un document de la police disant « il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas eu de problème, c'était une erreur, machin, qui explique tout ». Le vrai problème, c'est que Google refuse encore aujourd'hui de lui rouvrir et de lui rendre son compte. C'est-à-dire que le système nébuleux automatisé de Google a jugé que c'était comme ça, et même en présentant la décision de la police, à un moment, tu te dis, il faut que quelqu'un regarde le truc et juge si oui ou non c'était un problème, il a eu à répétition, il s'est dit, bon, la première fois, j'avais pas le jugement de la police, je les ai contactés, j'aurais dit c'est une erreur, ils m'ont pas cru, il a envoyé le papier de la police locale qui dit, non, non, c'est une erreur, Google a quand même dit, sans autre explication, avec le truc, le message automatisé, non, votre compte est fermé, au revoir. Et là, vraiment, c'est préoccupant ce que tu dis. Surtout qu'on a ce type de contenu qui est analysé de manière automatique. Alors on parle de pédophilie, mais ça peut être pour plein de trucs. J'imagine que maintenant qu'il y a eu un article dans le New York Times, Google va peut-être revoir la chose. Mais vraiment, c'est préoccupant la manière dont ça s'est passé. Surtout une fois que ça a dépassé le stade de l'automatisation. Qui est de l'automatisation, moi, je le comprends très bien. Non seulement ils ont fermé son compte, mais ils ont effacé toutes les données. Et il n'a plus le droit d'en ouvrir un nouveau. Donc, à tel point qu'il a dû aller travailler avec la police pour essayer de récupérer les données qu'il avait sur son compte, parce que la police avait eu une copie. Et une fois que l'enquête avait été conclue et qu'il n'y avait pas de crime commis, la police a travaillé avec lui pour essayer de récupérer. Enfin bref. Google n'en ressort pas grandi de cette histoire.
D'où l'intérêt de continuer à stocker ces photos et ces documents sur des serveurs, sur des NAS ou
sur des serveurs locaux, quoi. Enfin,
c'est ça.
Ouais, complètement, ouais. Bref, là encore, si vous voulez vous plonger dans l'article, il sera dans la newsletter. Il y a quelques autres articles qui sont vraiment intéressants, mais on va passer à d'autres sujets. Je crois que je les mettrai dans la newsletter aussi. Donc, ce genre de truc un petit peu plus long, je les mets dans la newsletter souvent. Et du coup, on va passer à des sujets un petit peu plus légers peut-être quand même tout de suite. Et du coup, je vais faire peur à Fred et on va parler d'Apple. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup.
Oh non.
Non, reste, Fred, ne pars pas.
Salut tout le monde.
L'event de présentation de l'iPhone 14 devrait avoir lieu le 7 septembre. On y est presque, c'est dans deux semaines, hein, deux semaines. Et l'appareil devrait être disponible le 16, donc ça, ça arrive. Et puis, un autre truc intéressant à noter sur Apple dans les news rapides, c'est qu'ils sont en train de travailler de plus en plus avec le Vietnam et l'Inde, beaucoup plus vite après le début du lancement de la production avec la Chine. Et donc, ils sont un petit peu en train de se découpler, détacher de la Chine. Dans le cas du Vietnam, c'est l'Apple Watch et les MacBook. Et dans le cas de la Chine, ça sera carrément... Pardon, dans le cas de l'Inde, ça sera carrément pour les iPhone 14. C'est marrant parce que la Chine est vraiment dans une position difficile. Vous vous souvenez que depuis des mois, enfin, il y a quelques mois, on vous parlait de la manière dont la Chine avait vraiment essayé de maîtriser la filière tech et l'industrie tech. Et ça posait un problème pour leur puissance économique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté, si vous avez lu le livre « How Nations Fail » que je vous recommandais dans un positron il y a quelque temps, mais c'est fascinant parce que ça montre de quelle manière le décalage entre les institutions publiques et privées et l'absence de destruction créatrice que provoque la motivation des institutions privées mène à ce genre de problèmes économiques dans toutes ces nations dont on pense « Ah bah oui, mais regardez, là, ça fonctionne quand même, même s'ils sont pas hyper, même s'ils sont liberticides, etc. » À un moment, ça finit par se casser la gueule. Et là, on l'a déjà vu en Russie, on a l'impression qu'on est en train de le voir en Chine. Et d'ailleurs, ils sont un petit peu en train de faire marche arrière parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment problématique. Bref, là, Apple est en train de... on sent se détacher économiquement autant que possible de la Chine.
Bah, je pense que tu as aussi la situation un peu géopolitique du moment, notamment avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, hein, très clairement, et les volontés, les velléités de la Chine de récupérer Taïwan. Et finalement, tu ressens encore plus cette distinction entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et c'est peut-être le bon moment, effectivement, pour Apple de basculer sur d'autres territoires, parce que la Chine peut effectivement du jour au lendemain décider, bah, tu vois, en conditions de guerre, j'en sais rien, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre, mais finalement d'arrêter toutes les entreprises américaines, leur production, et de les sortir du territoire. Donc
oui, alors ça, j'espère que ça sera pas pour tout de suite, parce que on serait bien dans la merde. Mais bon, autre sujet à propos de grosses sociétés qui ont des problèmes légaux et un petit peu lié à Apple, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Sony qui est en train de se rendre, enfin, je vais reprendre depuis le début, c'est un petit peu fatigant cette journée. Sony est au milieu d'un procès en Angleterre qui l'accuse d'abuser de sa position dominante. Dans quel domaine ? Sur PlayStation. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont le seul fournisseur de contenu numérique sur la plateforme PlayStation et qu'ils imposent une commission de 30% qui pèse sur les utilisateurs finaux. Si ça vous rappelle quelque chose, eh ben, c'est parce que c'est exactement ce dont on accuse Apple et Google, d'ailleurs, avec leur Play Store. Les conditions sont un petit peu différentes pour les consoles, mais quand on parlait d'Apple surtout, beaucoup de gens disaient alors quid de Xbox et Nintendo et PlayStation, c'est un petit peu la même chose. Et effectivement, il y a beaucoup de similarités. Alors, il y a d'autres choses, c'est que les consoles sont souvent, pas toujours, hein, mais souvent vendues à perte, et puis il y a une plus grande concurrence peut-être sur le marché du jeu vidéo que dans le marché des mobiles, donc je ne sais pas comment ça se passera pour PlayStation, mais là, il y a un procès qui est lancé pour ces questions de monopole sur leur propre plateforme, ce qui est vraiment intéressant. En l'occurrence, c'est l'Angleterre, on verra si ça s'étend ailleurs. Est-ce que tu as vu Mark Zuckerberg dans le métavers qui a été raillé et moqué une fois de plus pour la photo qu'il a postée ? Tu as vu cette histoire ou pas ?
Non. Non, pas du tout, non.
Alors, c'est Zuckerberg qui célébrait l'arrivée de son univers virtuel, qui n'est pas le métavers, mais qui est un univers virtuel qui s'appelle Horizon Worlds, en France et dans d'autres pays. Et La photo était... Alors, c'était quoi ? C'était une photo prise depuis l'intérieur de son univers virtuel, son univers 3D, de lui, devant une tour Eiffel. Et il y avait un autre, c'était un... Je ne sais pas exactement de quel monument il s'agit, mais c'est, il faut avouer que c'était très, très, très moche. C'était quand même un truc de, qui aurait pu être pris dans... Je sais pas le non c'est pas le Sacré-Cœur hein, c'est pas le Sacré-Cœur, il aurait été quand même particulièrement moche si c'était le Sacré-Cœur. C'est un truc qui aurait pu être dans Second Life il y a 15 ans quoi. C'est hyper moche, évidemment le monde entier s'est moqué de lui et donc il a posté une autre photo avec d'autres avatars et un environnement qui était beaucoup beaucoup plus beau. Effectivement la photo là pour le coup de son avatar est au standard moderne, on va dire. Mais pourquoi est-ce qu'il a posté un truc aussi moche à l'origine ? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement posté... Je n'ai pas compris, en fait. Est-ce que le Horizon Worlds a des niveaux de réalisme différents en fonction de la machine sur laquelle on est ? Est-ce que... Mais c'était encore une erreur de communication incroyable de Zuckerberg. Mais ça m'a bien fait marrer quand même.
Il me semble que Carrefour avait eu aussi un petit, enfin c'est pas un bad buzz, mais il y a eu pas mal de critiques quand ils ont lancé en fait leur format de recrutement dans le métaverse. Et tu t'es rendu compte effectivement que tu retombais à l'époque de Second Life avec des graphismes vraiment très bas, tout en vantant évidemment, tu sais, les nouvelles technologies, l'usage du coup de nouveautés telles que les casques virtuels, etc. Bref, hein, ça m'a fait penser à ça, mais c'est vrai que c'est fou et on l'explique pas parce que là c'est vraiment un loupé. Et ils ont pris combien de temps pour réagir, en fait ?
Oh, ça a pris deux jours. Ça a pris deux jours. Il a mis une petite mention. Oh, je sais que ma photo a été un peu raillée, mais on l'a prise très vite. Genre, on la prend très vite, ça change la qualité de la photo, quoi. On l'a prise très vite. Voilà, ouais. ça a pris deux jours, hein, même pas. Mais bon, c'est un peu. Mais le truc de Carrefour, c'est que Carrefour, on s'attend pas à ce qu'il fasse des trucs incroyables. Meta, avec les milliards qu'ils ont engloutis dans ses créations.
Oui,
mais le pire, c'est que c'est pas du tout moche comme ça. Je comprends pas ce qu'il a fait, quoi. C'est pas moche comme ça, son Horizon Worlds. C'est pas forcément aussi beau que ce qu'il a montré après, mais c'est pas du tout aussi moche que ça. Donc, bref. Zuckerberg, il faudrait que quelqu'un vraiment vérifie chaque chose qu'il poste avant qu'il ne les poste. Et puis quoi d'autre ? Allez, deux dernières news rapides encore une fois. Est-ce que tu connais les robots de Engineering Arts ? Tu les as déjà vus ou pas ?
Non, pas du tout.
Eh bien, c'est des robots, en particulier, c'est le robot Ameca, qui est en fait surtout connu pour son visage hyper réaliste et ses expressions faciales hyper réalistes. Ils ont posté une nouvelle vidéo avec des expressions faciales. C'est hyper, hyper impressionnant. Alors, c'était déjà le cas, mais là, il y a une semaine, 10 jours, ils ont posté le truc. C'est une sorte de visage en latex ou quelque chose comme ça, avec plein, plein, plein de petits moteurs derrière. Et aujourd'hui, il y a des expressions, tu sais, enfin, vraiment humaines, quoi. J'ai l'impression de voir un visage produit en 3D de manière assez convaincante dans la réalité. Tu vois le film iRobot avec Will Smith, qui est tiré du
film
Asimov.
Ouais.
Je dirais que j'ai l'impression que c'est encore meilleur. J'ai l'impression que c'est encore meilleur. C'est fou la qualité du truc et la manière dont ils arrivent à manipuler la plasticité du visage factice pour lui donner des expressions, des expressions expressives, si vous me passez l'expression. Il y a plein de trucs, il y a plein d'expressions différentes. Il y en a en tout peut-être une vingtaine et ça va de l'énervement, la rage, l'étonnement, etc., etc. C'est hyper, hyper impressionnant.
Et c'est effrayant ou pas sur tout ce qui est colère, effectivement, énervement, parce que là, on imagine encore une fois une machine qui demain pourrait en fait subsister aux côtés des humains. Enfin, j'ai pas vu du coup malheureusement ces images, mais c'est effrayant un peu ou...
Bah écoute, c'est effrayant, ça dépend de si t'as peur des robots. C'est une sorte de robot, un corps de robot sur lequel il y a une tête qui... alors, il est gris, mais le visage, il n'y a pas de cheveux, mais il est gris avec un visage qui est vraiment humain, ouais, qui a l'air humain. Franchement, tu regardes en passant, tu dis, ah bah c'est une personne. Et si on met une bonne perruque et un costume dessus, et avec le bon ton, tu vois, que ça soit pas gris, mais que ça soit un ton de peau naturel, et je pense que c'est pour ça qu'ils le rendent gris et qu'ils gardent le corps de robot et pas de cheveux, tu vois, c'est pour pas que ça soit trop choquant. Ouais. Mais je pense que si tu prends une photo de l'expression, tu aurais du mal à dire que c'est un robot, quoi. Vraiment.
Il pourrait être remplacé sur Twitch.
Il pourrait me remplacer sur Twitch, mais tu sais, est-ce qu'on a besoin de robots physiques ? Est-ce qu'un deepfake de Patrick ne suffirait
totalement
pas à ça ? C'est ça, un deepfake de Patrick ou un... Je peux me transformer en VTuber. Tu sais ce que c'est que les VTubers ou pas ?
Non, non, du tout.
Alors, les VTubers, c'est des YouTubers qui utilisent des logiciels d'animation qui ont des personnages qui sont un petit peu comme des marionnettes. Donc, des personnages en 3D, souvent stylisés en mode animé, qui vont s'animer en fonction de ce que fait la personne devant la caméra. Donc, toi, tu ne vois pas la personne, tu vois le dessin animé. Okay, mais quand la personne parle, ça fait bouger les lèvres de l'animé. Quand il bouge la tête, la tête bouge, etc. C'est une sorte de... Et donc, peut-être qu'on n'a pas besoin de robots. On fait simplement, on est tous dans le métavers et on a Patrick qui est en petite fille kawaii, tu vois, en petite French maid kawaii dans un café qui vous donne les news tech. Peut-être le meilleur de tous les mondes, ça.
Mais t'as pas un phénomène, il me semble, japonais ou coréen. Du coup, c'est intéressant que tu me dis, tu me parles de kawaii. Kawaii, pardon. Il me semble d'une personnalité en 3D qui fait de la chanson.
Oui, oui, bien
qui
sûr.
Qui est hyper connu au Japon. J'ai plus le nom. Hatsune Miku.
Hatsune Miku est une star virtuelle. Est une star virtuelle japonaise en l'occurrence. Qui est extrêmement populaire, oui, qui a une voix un petit peu robotique, parce que j'imagine que c'est une personne qui chante et qui le déforme derrière, et pour pas être lié à cette personne spécifiquement, ils ont des filtres derrière, mais oui, c'est une personnalité virtuelle, elle fait des concerts, elle a des merchandising, enfin des t-shirts, des trucs que tu peux acheter plein de trucs, et elle a ses fans. Ça va même plus loin. C'est qui ? C'est Nacon, le producteur de PUBG, si je ne me trompe pas. Nacon ou Bluehole ? Je ne sais plus. Bref. La boîte coréenne qui veut créer une influenceuse virtuelle qui, là, pour le coup, a des traits... Parce que Hatsune Miku, elle fait vraiment personnage de dessin animé. Hein. Qui s'appelle, je ne me souviens plus, Ava... Je sais plus comment elle s'appelle, mais ils l'ont présentée et c'est une personne virtuelle assez réaliste pour laquelle ils visent non pas le statut de chanteuse, mais d'influenceuse. C'est-à-dire qu'ils veulent en créer une série de comptes sociaux. Ils ne l'ont pas encore fait, mais ils l'ont annoncé. Une série de comptes sur les réseaux sociaux, peut-être de l'activité sur YouTube, etc. Et devenir une influenceuse. Et je peux tout à fait imaginer que ça fonctionne, quoi. Tu lui fais faire ce que tu veux. Attends, ce que je veux dire, c'est les producteurs
tester des produits,
faire ce qu'elle veut. Voilà, tu n'as pas les contraintes de la personne. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des trucs comme ça. Ça m'amène sur plein de sujets, mais il y avait un article que j'avais inclus dans une newsletter précédente sur des sortes de VTubers, on va dire, qui étaient très populaires en Chine, mais dont les personnes qui les animaient derrière étaient des vraies personnes et qui travaillaient comme des fous, et il y avait des conditions de travail infernales, et justement qui se plaignaient de ça et qui posaient ce problème-là. Donc, c'est tout un milieu qui est dans la même tendance de la personnalité virtuelle, de la personne virtuelle, qui est un petit peu différente du robot de Engineering Arts, bien sûr, mais qu'on va voir de plus en plus, je pense. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va gagner en popularité au fur et à mesure que les trucs comme les VTubers seront plus performants. Parce que là, tu le vois encore. Tu vois, l'animation n'est pas très bonne, la synchronisation entre la personne qui est derrière et la personne synthétique n'est pas très bonne. Mais quand on pourra avoir facilement la synthétisation de quelqu'un de beaucoup plus réaliste, ou même sans que ça soit 100% réaliste,
ouais.
Mais même si ce n'est pas 100% réaliste, je pense que ça peut être tout à fait utilisable. D'ailleurs, il y a un article sur les filtres de beauté sur Instagram. Je me dis, sans aller jusque-là, est-ce qu'avec Deepfake, tu peux t'appliquer un filtre de beauté quand tu es en train de streamer en live ou diffuser sur YouTube pour corriger tes imperfections, machin, comme ça, tu n'as pas besoin de, je sais pas, te maquiller, t'être bien. Bon, moi, je ne me maquille pas, mais tu vois, c'est tout un univers de trucs différents qui sont j'allais dire inquiétant, mais c'est même pas vraiment inquiétant, c'est juste une évolution, quoi. Une évolution. On nous dit tuto maquillage avec Blender, exactement. Exactement ça. Alors, le dernier sujet dont je voulais parler, c'est les Dark Stores. Les Dark Stores, c'est ces entrepôts qui sont installés un petit peu partout en ville pour servir la livraison ultra rapide. Vous savez, les services qui vous livrent en 10 minutes des courses. Il y en a plusieurs, hein, il y en a différents, il y a Gorillaz, etc. Et les Dark Stores ont fleuri un petit peu partout dans les villes, en particulier à Paris. Et du coup, le gouvernement veut légiférer là-dessus. Les maires sont extrêmement pour... pardon, c'est le contraire. Quand je dis extrêmement pour, ce que je veux dire, c'est extrêmement contre, évidemment, vous l'aurez compris, parce que ça cause beaucoup de désagréments aux riverains quand il y a... parce qu'ils sont souvent dans des immeubles d'habitation. Et du coup, les maires sont contre, le gouvernement veut légiférer et réguler. Moi, je pense que justement, c'est ça qui est important. Il faut que toutes les parties soient entendues. Il faudrait justement légiférer sur ces trucs. Peut-être, je ne sais pas s'il faut dire, faut les interdire tout court, mais il faut que ça ne soit plus la jungle, comme ça a été le cas, comme on l'a fait, on a légiféré pour les trottinettes, enfin, il y a eu plein de domaines. Et là, je pense que les dark stores, faut faire un truc, faut faire une loi, faut réguler la chose, quoi. Mais
les problèmes qui sont amenés, c'est des problèmes d'urbanisation et de tapage, hein, c'est ça. Enfin, entre autres, à cause des
les allées et venues dans les immeubles. Ouais. Tu vois, t'as un immeuble dans lequel toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, qui fait du bruit, qui il y a des livraisons, il y a des. Enfin, c'est pas prévu pour ça, tu vois. C'est un immeuble d'habitation,
ouais, bien sûr.
C'est pas un commerce. Mmh. Donc. Donc oui, je pense qu'il faut clairement légiférer. C'est le quick commerce, voilà, les livraisons en 10 minutes, pardon. Laetitia me taperait sur la tête, Laetitia Lamari du Café de l'e-commerce me taperait sur la tête. Je devrais connaître le terme de e-commerce, de quick commerce, je veux dire. Bref, voilà, donc peut-être les dark stores, bientôt, là encore, la fin de la récré et que ça soit régulé. Et voilà pour notre émission. On arrive au bout. Merci d'avoir participé avec moi, Fred. C'était hyper intéressant.
Merci pour l'invitation.
C'était un plaisir. Où peut-on te retrouver, dis-moi, sur Internet quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech ?
Alors, idéalement, chromebooklive.com pour les actualités Chromebook et également la chaîne YouTube TechLive. TechLive FR, où je fais des reviews de produits, alors plutôt orientés Google, vous vous doutez bien, notamment focus sur les Chromebooks.
Très bien. Et du coup, tu l'utilises toujours, ton Odyssey G9, le moniteur immense, là ?
Écoute, je l'utilise toujours, je l'ai même validé. Alors, pour le gaming, c'est un peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les consoles, moi qui ai une PS5, elle n'est pas adaptée encore à ce genre d'écran, donc tu as en fait un agrandissement qui est fait de manière grossière.
Ouais, mais tu le mets au milieu, tu mets simplement l'image au
mais
milieu.
Mais oui, c'est ça, je le mets en mode ce qu'ils appellent PIB, PIP, pardon, picture in picture, où sur le côté, je mets par exemple une petite vidéo, et de l'autre, je joue dessus. Mais oui, je l'utilise, et c'est adapté, alors c'est forcément mieux adapté sur Windows que sur Chrome OS, même si j'ai trouvé des solutions de contournement, et j'en parle du coup dans ma vidéo, mais oui, je l'utilise toujours. Au départ, c'est vraiment très spécial, hein, t'as le cerveau qui a du mal à s'habituer parce que forcément t'as une organisation des contenus à faire qui est plus la même que sur un ordinateur classique ou sur deux écrans séparés. Et là,
pour ceux qui comprennent pas, c'est un écran super ultra large qui est incurvé et qui fait c'est 49 pouces de diagonale, c'est ça ?
49 pouces, ouais, c'est ça.
Mais c'est pas 49 pouces comme une télé de 49 pouces. C'est la hauteur d'un moniteur classique, on va dire d'un 27 pouces. C'est comme si on mettait deux 27 pouces l'un à côté de l'autre. Donc c'est vraiment un truc immense, deux 27 pouces l'un à côté de l'autre. Vous pouvez imaginer ce que ça donne, quoi. Merci en tout cas à toi d'avoir été là. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, notamment la communauté Discord où on est plein à bien s'amuser ensemble. Vous avez aussi le lien vers le Twitch. Twitch, c'est NotePatrick, hein, c'est pas compliqué. Pour suivre les émissions en live avec tous les amis. Et puis, bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech. Le lien est aussi... Pardon, le lien est aussi dans les notes de l'émission. Vous pouvez nous retrouver là-bas pour soutenir l'émission. Et oui, soutenir l'émission et avoir tous les bonus, les contenus en plus, comme les after-shows, les éditos, etc. etc. Et j'espère que vous considérerez la chose si vous appréciez l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.
À bientôt.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.